Actu SF, les podcasts.
Bonjour, bienvenue dans cette table ronde sur limitation des ressources et démocratie. Je vais d'abord parler un petit peu du sujet et je vous présenterai ensuite nos invités. Nous allons parler une fois peut-être de plus, mais nous allons parler une fois de plus de la question de la fin du monde. Mais la fin du monde est pour demain en quelque sorte, mais peut-être pas pour tout le monde. Et de ce point de vue-là, les récits de science-fiction ont tendance à dramatiser, à amplifier la question des ressources en nous plaçant assez rapidement dans une situation post-apocalyptique de type Mad Max où tout a disparu et on est revenu à un tribalisme intégral, mais par l'effet de nécessité, parce que de toute façon, quand il ne reste plus que deux gouttes d'eau à se partager ou dont il faut s'emparer, forcément, la violence devient d'une certaine façon la seule solution dans une logique de lutte pour la survie. Nous allons situer notre curseur un peu avant ça. Hein. Nous n'allons pas nous placer dans une perspective de type Mad Max, même si ça vous amuse, on peut en parler quand même. Et nous allons nous intéresser plutôt à une logique d'anticipation à plus court terme, une réflexion qui va être centrée autour de la question de la démocratie et de la façon dont ce grand corps social qui nous abrite encore pour quelque temps pourrait résister dans un contexte de pénurie de plus en plus fort, pénurie sur telle ou telle ressource importante, l'énergie, quelle que soit sa forme, le pétrole étant l'une de ses formes, les ressources alimentaires et notamment la question de l'eau qui devient cruciale, enfin qui est déjà cruciale et qui peut devenir cruciale également dans nos régions, ou d'autres ressources encore. Je ne sais pas si nous parlerons des ressources humaines, mais ça ne serait pas absolument absurde, mais ça, pour l'instant, nous n'en manquons pas trop, pour l'instant en tout cas. De ce point de vue-là, la science-fiction a déjà apporté quelques propositions, quelques regards, et nos invités auront l'occasion d'en reparler et de reparler de leurs propres œuvres, mais pour parler de manière un peu générale, on a déjà vu dans différents genres, je pense au cadre cyberpunk, une réponse assez pessimiste et automatique qui est de dire que de toute façon l'État-nation ne peut pas résister dans un contexte de destruction progressive des ressources et qu'au contraire, la concentration par certains oligopoles de type multinational, transcorporation, risque de toute façon de faire s'effondrer la plupart des garde-fous démocratiques qui sont les nôtres. Donc, une vision, là encore assez pessimiste, même si elle est intermédiaire en quelque sorte, qui nous dit que dans un contexte de disparition des ressources, la démocratie ne peut pas résister, ou du moins on n'en voit pas de modèle de réflexion, de manière de le faire actuellement. Alors, c'est une des choses dont on va discuter, pas la seule, mais la démocratie va-t-elle se retrouver remplacée par diverses formes de dystopie du fait de la limitation des ressources? C'est un de nos axes problématiques. On va discuter de ça et sans doute d'autres choses encore au fur et à mesure que le débat nous entraînera avec donc nos invités. À ma gauche immédiate, Andreas Eschbach, qui est breton-allemand en quelque sorte, hein, puisque c'est un voisin immédiat de Nantes, mais c'est également un auteur allemand, donc auteur de nombreux best-sellers et d'ouvrages considérables pour la science-fiction, Des milliards de tapis de cheveux, Jésus vidéo et plus récemment L'affaire Jésus qui est une suite, et peut-être plus spécifiquement pour le débat d'aujourd'hui, nous aurons l'occasion de parler de En panne sèche. Je lui laisserai nous le présenter un peu plus tard, si en tout cas la conversation vient sur ce sujet. Philippe Curval, au centre, un pilier de la science-fiction française, qui a de nombreuses œuvres à son actif, notamment Le ressac de l'espace, avec lequel il a commencé les choses, sur lequel je me suis bien amusé personnellement, Cette chère humanité, et plus généralement le cycle de l'Europe après la pluie, cycle dans lequel il réfléchit à un état alternatif de nos démocraties européennes. Ça sera peut-être un des ouvrages sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Et plus récemment, comme on le voit d'ailleurs, vous verrez défiler des couvertures, diverses couvertures, plus récemment, il a écrit Black Bottom, qui c'est le nom d'une danse, enfin je... Bon, voilà. Et un souvenir de Pierre Loti est ressorti récemment, une utopie tout à fait intéressante. Et peut-être la question de l'utopie, non, très certainement la question de l'utopie interviendra dans notre réflexion aujourd'hui. Et notamment la question de l'utopie dans la réalité, puisque Alessandro Pignocchi, qui travaille actuellement à une bande dessinée sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, hein, si je ne me trompe pas, et donc qui est un, donc Alessandro Pignocchi, qui est un ancien chercheur en sciences cognitives, en philosophie, donc qui s'est réorienté, ou du moins qui a trouvé une vraie vocation actuellement dans la bande dessinée que vous pouvez suivre sur son blog extrêmement documenté qui s'appelle Puntish. Donc Alessandro Pignocchi a écrit plusieurs romans graphiques, notamment Anent, Nouvelle des Indiens Jivaro, et il a écrit un petit traité d'écologie sauvage. Donc vous voyez que dans les perspectives qui sont les siennes, la réflexion sur les ressources et les formes politiques vont arriver assez rapidement au premier plan. Alors, j'aimerais, pour commencer, poser un petit peu la question, un petit peu à côté de la question des ressources, enfin, d'un état des lieux, des ressources, ça ne va pas être notre, enfin, encore une fois, je pense, notre sujet central, c'est-à-dire un état réel, puisque nous ne sommes pas des spécialistes de ces questions à proprement parler. Ce qui va nous intéresser peut-être en premier lieu, c'est la question de ce que signifie le corps social démocratique et de son rapport au globe, de son rapport à la planète. C'est-à-dire qu'il me semble, et vous n'êtes pas obligé de me suivre sur cette question-là, mais que dans la façon, dans l'histoire des démocraties occidentales, le rapport interne aux ressources a toujours été assez différent du rapport externe aux ressources. C'est-à-dire que nous sommes dans une grande ville, dans une ville dont le passé est notamment un passé colonial, l'exploitation des ressources à l'extérieur des limites de la démocratie, ça a toujours été quelque chose de relativement traité différemment de la façon dont on envisage l'exploitation des ressources intérieures. Donc, j'aimerais peut-être commencer sur cette question-là, qui est, en gros, comment situer la démocratie et le modèle démocratique occidental au sens large dans la question de le rapport aux ressources intérieures et extérieures. C'est une question trop abstraite, je peux la reformuler. Est-ce que quelqu'un veut s'en emparer? C'est intimidant, je suis désolé. Philippe Curval.
Bon, il est évident de toute façon que le problème de la démocratie par rapport aux ressources, il a évolué considérablement puisque j'ai un âge avancé et donc je sais à peu près comment ont évolué les choses. Il est évident qu'il y a 70 ans, il y avait un consensus général par rapport à tout ce que l'on pouvait disposer au point de vue ressources énergétiques et qu'il n'y avait pas tellement de problèmes. La démocratie fonctionnait absolument parfaitement, puisqu'on avait toutes les ressources suffisantes. Évidemment, je passe les guerres qu'il y a pu y avoir à multiples... Enfin, je n'ai pas vécu la guerre de 14, mais enfin, celle de l'autre, je l'ai vécue. Et donc là, on a vécu un moment terrible où on était occupé par l'ennemi et donc la démocratie avait disparu, le pétainisme s'était installé et il y avait vraiment une pénurie générale puisque tout le système fonctionnel qui était mis en place avait disparu. Donc petit à petit, on en est revenu à une fonction normale. Et personnellement, moi, j'ai été, en tant que rédacteur en chef d'une revue d'EDF, très impliqué dans la naissance de l'énergie nucléaire. Tout le monde me le reproche, mais personnellement, je persévère dans cette aventure. Bon, on peut dire que là, justement, il y a eu, de la part des hommes politiques de l'époque, une véritable prise de conscience des besoins d'une démocratie par rapport aux besoins énergétiques qui a donné des résultats qui, sur le plan de la satisfaction des habitants de la France en particulier, a été très bonne, puisqu'on parle toujours des fameuses 30 glorieuses qui ont accompagné d'ailleurs cette naissance du nucléaire. Bon, il est évident qu'après, les choses ont été perturbées, d'une part, par la poussée des écologistes qui ont, avec raison, vu que le problème des déchets était un problème considérable par rapport à l'expansion du nucléaire. Par ailleurs, moi-même, dans l'Europe après la pluie, alors que J'ai soutenu la création des centrales. J'ai aussi comparé le déficit qu'il pouvait y avoir sur le plan environnemental par la suite. Et donc, vu que le moment du nucléaire était terminé, qu'il fallait passer à autre chose. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'à l'époque, EDF était une espèce d'utopie fermée, il faut bien le dire, où tout le monde obéissait et d'une manière générale. C'était une société extrêmement bien organisée et très bien structurée. Bon, a commencé à se dissoudre à partir du moment où, à la place d'ingénieurs, on a mis des hommes politiques à la tête de cette entreprise et qui a un peu foutu en l'air toutes les choses. Donc depuis, il est évident que maintenant, le problème se pose de la transformation des ressources énergétiques pour la démocratie que nous vivons. Et là, un vaste sujet s'engage sur lequel je ne veux pas encore me prononcer parce que je pense que d'autres ont quelque chose à dire à ce sujet.
Alessandro Pignocchi.
J'ai réfléchi pour essayer de trouver quelque chose à dire sur... C'est assez fort ou pas ? Oui. Peut-être au-delà de l'idée de... que l'Occident moderne s'est construit sur les colonies et sur l'idée qu'il y avait des ressources inépuisables à côté, c'est peut-être un sujet encore plus vaste. C'est vraiment un des fondements psychologiques de l'Occident moderne, l'idée qu'il y a un ailleurs à conquérir, qu'il y a un autre chose, un extérieur, et que donc le mouvement qui compose la modernité, qui repose sur une distinction nette entre nature et culture, entre le monde des hommes et une sauvagerie en face, que ce mouvement peut progresser indéfiniment et que le monde fonctionne de cette façon, comme une extension du domaine humain, de la culture, sur l'asservissement de la nature. Et donc les colonies étaient une des images de l'ailleurs éternellement asservissable, la nature en est une autre, et c'est là qu'on commence à douter un petit peu et que le modèle bat de l'aile, vu qu'il n'y a plus d'ailleurs. Il y a plus de le monde s'est uniformisé, on prend conscience de ses limites, et cette notion d'une nature qu'on pourrait conquérir éternellement est en train de plus en plus de se fissurer et contribue à l'espèce de perte de repère que vit l'époque contemporaine. Et ça se... je pense qu'on n'a pas encore complètement pris conscience de ce que ça fait psychologiquement, l'idée qu'il n'y a plus d'échappatoire, en gros, que le monde est clos et qu'il n'y a plus d'ailleurs. Mais ça se ressent dans tout un tas de petites questions très concrètes. La notion de progrès, notamment, est en train de se redéfinir complètement. Jusqu'à il y a peu, à partir du moment où tout ce qui accroissait notre emprise sur cette nature à conquérir était vécu comme un progrès. Et maintenant, ça n'est plus le cas. Ça fait 10, 15 ans et du coup, la flèche... la flèche du progrès, la direction est beaucoup plus floue maintenant, qu'on a beaucoup plus de mal à se situer. Il y a tout un tas de questions de société contemporaine où on ne sait plus trop comment se positionner pour être progressiste et non pas réactionnaire, parce que justement ce mouvement n'est plus possible comme il y a, en tout cas on peut plus y croire comme on y croyait il y a 40, 50 ans.
Andréa Sejbar, si je reformule un petit peu la question, est-ce que le modèle démocratique au sens large, tel qu'on le connaît actuellement, vous paraît bien armé, efficace face aux défis que représente la limitation des ressources au niveau mondial, en fait.
Ça va. Quand j'ai lu la description de cette table ronde. Quand j'ai lu la description de cette table ronde, j'ai commencé à penser dans cette direction. Et je me dis, on dit, la démocratie, c'est l'art du compromis. Et si on a l'impression qu'il faut se battre pour les dernières ressources, le mot important, c'est se battre, il faut se battre, on ne peut plus faire des compromis parce que c'est une question de vie ou mort. Je pense que c'est cette impression qui est le danger pour la démocratie. Le long où on a l'impression qu'on va trouver une solution pour tous, la démocratie peut continuer. Mais si on a l'impression non, ça ne marche plus, la guerre a commencé, la bataille pour les dernières ressources, la démocratie va disparaître. Et j'ai l'impression que l'augmentation du nombre des populistes dans la politique globale dans le moment, les Trump et ses copains, ça vient de cet sentiment que peut-être la guerre pour les dernières ressources a déjà commencé. Et c'est une guerre secrète, on ne dit pas la vérité, on fait l'impression que tout va bien, mais en vérité, on se bat pour les dernières sources de pétrole, etc.
Mais la démocratie n'est pas forcément pacifiste. C'est-à-dire que dans une lutte entre nations pour des ressources limitées au niveau mondial, ça peut tout à fait passer par un modèle démocratique. D'ailleurs, dans le siècle qui s'est écoulé, ce sont souvent des démocraties qui en ont battu d'autres et qui se sont appropriées un certain nombre de ressources. Donc cette logique d'appropriation n'est pas incompatible. C'était le sens de ma question initiale, mais je ne veux pas la défendre en tant que telle, ce n'est pas la question. Mais ce que je veux dire, c'est que si on se situe au niveau mondial, en fait, le problème va se poser un peu différemment de ce qu'on envisage comme régulation des ressources à l'intérieur. Mais peut-être justement qu'on pourrait se tourner un petit peu vers la question de l'intérieur et la question de la pertinence d'un modèle démocratique dans une prise de conscience individuelle de l'individu démocratique, du citoyen démocratique. Est-ce que cette conscience citoyenne qui est stimulée par différents messages de toutes sortes en termes d'écologie, est-ce que c'est un instrument qui vous semble avoir un sens? C'est-à-dire, est-ce que les voies actuellement employées par la démocratie de dire chacun doit prendre conscience, chacun doit recycler, chacun doit faire ceci, est-ce que ceci est quelque chose qui a un sens au niveau global, ou est-ce que c'est justement simplement de la propagande, à votre avis? Alessandro.
Oui, c'est évidemment de la propagande. Il y a des gens qui ont encore un doute sur cette question. Je ne sais pas si c'est propagande le terme approprié, mais en tout cas, ton introduction faisait comme si les choses se passaient bien pour l'instant, que la démocratie fonctionnait à plein et que peut-être quand les ressources commençaient à être limitées, les problèmes commenceraient à se poser. C'est évidemment pas le cas. Et là, on est déjà dans un scénario qui ressemble à un mauvais...
Et comment est-ce que ça se traduit, alors? Si on fait un état des lieux de ces tensions par rapport à un idéal démocratique, et qu'est-ce qui fait que, justement, les ressources ont déjà, de toute façon, vidé en partie de leur sens les idéaux démocratiques?
C'est au-delà de la question des ressources. Les ressources et la crise environnementale aggravent une situation qui était déjà en place. Je vais dire des énormes banalités, mais on doit peut-être passer par là. La classe dirigeante, en gros, au sens large, a des intérêts tellement frontalement antagonistes à ceux du reste de la population que ça serait extrêmement étrange que les gens qu'on met au pouvoir œuvrent pour l'intérêt commun. Ça voudrait dire qu'ils seraient vraiment d'un altruisme quasiment pathologique. Alors, sur tous les grands sujets de société, leurs intérêts de groupe vont à l'encontre de ceux du reste du monde. Le chômage, par exemple, aucun de nos dirigeants et de tous les gens qui comptent pour eux, que ce soit en termes affectifs ou stratégiques, parce qu'ils financent leur compagne, parce qu'ils détiennent les médias, etc., aucun n'aurait intérêt à ce que le chômage baisse. Donc c'est extrêmement... c'est extrêmement surprenant quand on formule les choses en se disant « Oh, ils prennent les mauvaises décisions, ils sont encore trompés, ils ont essayé de faire un truc. » Mais si on peut mettre des sciences cognitives là-dedans, mais c'est même pas la peine. Si on analyse ça en termes psychologiques assez basiques, on se comporte tous de façon consciente ou en partie inconsciente selon ce qu'on considère les intérêts de notre groupe. Ça a été largement étudié en psychologie sociale. Il y a tout un tas de rouages inconscients, de biais qui font qu'on favorise, qu'on juge pas de la même façon les gens qu'on considère comme appartenir à notre groupe ou comme étant extérieurs au groupe. Et il se trouve que ce qui constitue le groupe des gens qui ont un pouvoir décisionnel sur l'avenir, l'intérêt de ce groupe-là va à l'encontre de ceux du reste du monde. Et la crise environnementale aggrave évidemment cette divergence d'intérêts. Là aussi, il ne faudrait pas du tout toutes les critiques qui disent « Ah, ils n'ont pas bien pris conscience, ils ne se rendent pas compte, il faut leur faire remonter les informations pour que... » C'est d'une naïveté vraiment confondante. C'est les classes dominantes et dirigeantes sont les premiers à avoir pris très au sérieux la crise écologique. Là, l'exemple paradigmatique qui l'illustre de façon assez jolie, c'est Bruno Latour qui en parle dans son dernier livre « Où atterrir ?» C'est l'ancien PDG d'ExxonMobil qui est devenu depuis secrétaire d'État aux affaires étrangères de Trump et qui a été viré parce qu'il était apparemment trop à gauche sur l'Iran. Mais bref, c'est extrêmement documenté comment les grandes multinationales du pétrole ont pris très au sérieux les conclusions du Club de Rome dès les années 70. C'est les premiers, à une époque où tout le monde se moquait d'eux, c'est les premiers à avoir pris ça au sérieux, à avoir commandité des études internes qui confirmait à peu près tout ce que disait le Club de Rome, et d'avoir choisi vraiment de façon très délibérée d'inventer le climato-scepticisme et de mettre ça en avant, de le pousser dans les médias pour que les gens puissent continuer à consommer comme si de rien n'était pendant que une espèce d'élite dominante, enfin, tout ça sonne complotiste, mais c'est pas du tout le cas. C'est juste des gens qui suivent spontanément leurs intérêts comme à peu près tout le monde. Simplement, ils sont dans une structure où leurs intérêts sont d'une nature très particulière, quoi. Et aujourd'hui, la croissance verte, les énergies renouvelables, etc., conceptuellement, c'est un équivalent du climato-scepticisme. Le climato-scepticisme n'a pas pris en Europe. Du coup, on a cette histoire-là pour faire croire que finalement, tout va, il n'y a pas vraiment de souci, tout va bien. Et donc, du coup, croire qu'on est dans un fonctionnement démocratique parce qu'on élit un type tous les 5 ans et à chaque fois au bout de 2-3 ans on fait celui-là est aussi mauvais que le précédent, c'est pas grave, on va choisir mieux là, au prochain coup, c'est déjà complètement complètement caduque, et c'est déjà quasiment le cœur du problème, quoi. Il n'y a pas du tout à attendre dans 10, 15, 20 ans que les choses s'aggravent, on est déjà en plein dedans, quoi.
Ça fait écho à ce que disait Andreas Eschbach sur l'idée que la guerre a déjà commencé, c'est-à-dire que finalement, si on vous suit par rapport à ce que vient de dire Alessandro Pignocchi, il y a cette idée que le populisme qui peu à peu s'empare actuellement des démocraties, même s'il faut évidemment éviter de juger à court terme, hein, absolument, mais que c'est finalement une traduction actuelle aussi de ce type d'intérêt-là, c'est-à-dire les groupes d'intérêt qui prennent possession de certaines positions. Et finalement, dans Panne sèche, par exemple, vous décrivez une situation qui est un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire l'idée que, les gens qui ont intérêt à fonctionner sur le pétrole connaissent la situation, la dissimulent jusqu'au moment où... Enfin, est-ce que peut-être vous voulez en parler ou parler dans le prolongement de ce qui a déjà été présenté ?
Après, Ah oui, l'idée en panne sèche, c'est que le pétrole s'arrête d'une semaine à l'autre. Et je voulais décrire ce qui se va passer dans ce cas. Et la chose importante, c'est que notre civilisation ne peut pas fonctionner sans énergie. L'énergie, c'est la base de tout. Alors, c'est la ressource la plus importante. J'écris aussi sur des alternatives. Alors, le pétrole, c'est une ressource qui est vraiment limitée. Même si, dans le moment, on ne le sent pas. Les prix de carburant sont toujours en ordre. Mais c'est sûr, ça ne peut pas continuer comme ça pour des milliers d'années. Mais il y a des alternatives. Par exemple, le soleil nous rapporte avec des énergies 100 fois que ce que nous produisons nous-mêmes. Et là, il faut plus ou tard changer la source de notre énergie pour survivre. Dans l'échelle de la vie humaine, le soleil, c'est une source éternelle d'énergie. Mais pour ce que j'ai dit avant, cette guerre pour les dernières ressources qui peut être déjà lancée, il suffit qu'un suffisamment nombre de gens croient que les ressources sont limitées. C'est pas forcément vrai. Ça suffit que les gens le croient ou quelqu'un fait les croire pour lancer cette guerre inutile dans ce cas. Et je pense toujours on sait que les pays qui ont beaucoup de ressources ne sont pas forcément des pays riches. Les pays riches sont des pays où on a des libertés économiques, où on a des démocraties. Avoir une démocratie, c'est plus rentable qu'avoir des ressources. Les pays qui ont beaucoup de ressources aujourd'hui, ils sont là où on a des dictateurs et des corruption et tout ça. C'est plutôt une malédiction qu'une vraie source de prospérité.
Philippe Curval.
Oui, je pense quand même que de toute façon, le problème démocratique, il est assez circonscrit en ce sens que on peut dire que le nombre de démocrates dans le monde véritablement de pays démocratiques sont quand même assez faibles par rapport à tous les autres pays, soit les pays en voie de développement, soit les pays développés avec des grands appétits commerciaux. Mais en ce qui concerne les ressources, finalement, il y a une expansion démographique considérable puisque il y a quelques décennies, il y avait 2,5 milliards d'habitants sur la Terre. Maintenant, il y en a pratiquement 8 milliards. Et on peut dire que les choses ont véritablement changé. Mais par contre, on se rend compte d'une chose, c'est que quand j'étais en sixième, on me disait toujours, le pétrole, c'est terminé. Le charbon, il y en a pour 50 ans. Or, on se rend compte que sous la pression des grands groupes économiques et financiers internationaux, on trouve toujours des solutions, on trouve toujours des puits de pétrole, on continue toujours à ronger la terre d'une manière inexorable. Et tout ça, ce n'est pas forcément aux mains des nations démocratiques, bien qu'on puisse évidemment temporiser, comme mon voisin l'a dit, sur le fait que les hommes politiques ne sont pas toujours en phase avec leur public et surtout en phase avec le devenir de l'humanité. Mais malgré tout, je crains que tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent est quand même une menace terrible pour la fin de la démocratie parce que sous la pression des forces externes qui sont de plus en plus importantes, sous la pression des groupes économiques qui continuent à gratter partout pour extraire de quoi fournir de l'énergie au peuple, il y a quand même une grande menace pour les démocraties à venir et je crains beaucoup pour ça.
Alors, avant d'envisager là, dans une deuxième partie de notre réflexion, justement, des voies possibles, enfin, en tout cas, d'envisager, pas des solutions, mais en tout cas, des manières de répondre à ces défis-là, j'aime bien ouvrir au milieu de la séance les questions ici. Il y a une question là, pour une ou deux questions, hein, pas plus. Et ensuite, on enchaîne. Il y aura d'autres questions à la fin de la session. Donc, le micro va arriver. Alors juste devant, je ne sais pas si... Oui, il y a une question ici, il y en aura une deuxième ici. D'accord, allez-y.
Bonjour. Alors moi j'ai une question, parce qu'en fait là vous abordez l'angle énergétique visiblement comme s'il suffisait de faire une transition vers une autre énergie, mais sans questionner peut-être le point du problème même qui est la consommation et les besoins en tant que tels. J'ai pas encore entendu le mot de décroissance ou de choses comme ça. Et est-ce que le problème ne vient pas plutôt du fait que justement la seule porte de sortie face à la catastrophe écologique, ce serait de changer le mode de consommation et donc pas de chercher une autre énergie, mais peut-être de simplement moins dépenser d'énergie?
Alors c'était justement pour la deuxième partie, mais c'est bien, ça nous permet d'enchaîner. Allons-y.
Bah, je l'ai quand même évoqué en disant que les notions de croissance verte, d'éolien, de solaire, etc., à mon avis, sont encore une fois un équivalent, une supercherie du même ordre que le climato-scepticisme, à peine plus raffiné, quoi, mais que ça, en tout cas, ça joue le même rôle, quoi. Donc oui, bien sûr. Après oui, donc je pars tout de suite.
Mais est-ce que, allez-y. Est-ce que vous pouvez un peu préciser, parce que finalement, bon, c'est quand même une pensée un peu provocatrice. Allons au fond. Pourquoi est-ce que justement la supercherie, qui est le climato-scepticisme, qui vise à retarder en fait toute vraie prise de conscience et à militer auprès par du lobbying auprès de gouvernements pour éviter que des choses qui limitent les profits de certaines entreprises soient mises en place. Dans quelle mesure ça peut ressembler justement à cette logique, la communication qu'il y a autour de l'idée de croissance verte, l'idée. Pourquoi est-ce qu'il y a cette. Dans quelle mesure y a-t-il cet effet de lobbying ou cet effet de retarder de vraies solutions en quelque sorte?
C'est-à-dire, c'est que dans les faits, c'est ça. C'est que l'éolien, tous ces trucs, on sait que l'impact est à peine moins terrible que les énergies fossiles. Enfin, si on prend en compte l'acheminement, la fabrication, etc., tout ça fonctionne pas du tout. Enfin, et effectivement, il y a ça entretient l'idée que on va aménager un petit peu les structures à leur marge et que tout va bien, tout va fonctionner. Mais ce que la c'est intéressant quand même le moment justement historique où de l'invention du climato-scepticisme dans les années 70, parce qu'il y a eu un doute visiblement, enfin quand même il y a eu un moment où ça a été un choix, là pour le coup ça a été un choix délibéré. Il y a tout un tas d'événements qui sont analysés comme des choix qui n'en sont pas, où c'est juste des gens qui suivent au jour le jour leurs intérêts, mais là le climato-scepticisme ça a été vraiment qu'est-ce qu'on fait, étant donné qu'un changement de fond et impensable, on va plutôt mettre ça en avant. Donc il me semble que tout le délire autour des énergies renouvelables et d'un capitalisme vert est du même ordre. Mais la remise en question, c'est effectivement va même au-delà d'une idée de changer de mode de consommation, consommer moins. Une sobriété, etc. Il y a vraiment une nécessité de s'en prendre aux structures de cosmologiques quasiment qui composent la modernité, notamment la mise à distance, la distinction nature-culture, l'unification de la nature et sa mise à distance, et ce qui lui confère un statut d'objet et de ressource, justement. Quoi. Et à partir du moment où on est dans une relation qui est vraiment le cœur de la modernité, hein, depuis le à partir du moment où on est dans une relation d'utilisation, il n'y a pas vraiment de salut et d'issue à la crise environnementale qui se dessine. Et ce qui est terrible, c'est que la notion de protection est incluse là-dedans. Quoi. Que la protection pensée à l'occidental, et encore, c'est une allusion à ça, le petit dessin que vous voyez derrière, c'est une critique des arguments utilitaristes, où, je ne sais pas si c'était lisible, mais aujourd'hui, pour justifier la protection d'une zone naturelle, par exemple, on se sent obligé de parler des services qu'elle nous rend, des fonctions. Voilà, il faut protéger cette forêt parce qu'elle puise le carbone ou parce qu'elle purifie l'eau, les abeilles parce qu'elles pollinisent nos cultures. Et la logique de la protection est la continuation de ça. Il faut protéger ça parce qu'on va pouvoir ce parc, parce qu'on va pouvoir s'y promener, s'y détendre, parce que ça fait du bien, on va respirer de l'air pur, etc. Mais cette relation il n'y a pas d'issue tant qu'on reste dans cette relation d'utilisation, d'autant plus que l'espèce de balance dans laquelle on est entre protection et exploitation est complètement biaisée, vu que quand on a choisi d'exploiter une zone, on peut toujours c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Si on choisit de protéger un endroit et qu'ensuite on se fait finalement le cours du baril a augmenté, on va plutôt revenir en arrière, c'est toujours possible. Alors que quand on a exploité, c'est beaucoup plus difficile de revenir en arrière. Donc il y a une nécessité, en gros, de basculer de la relation de sujet à objet qu'on entretient avec plantes, animaux et territoires vers une relation de sujet à sujet qui en gros, tient compte de l'intériorité de l'autre, de ses intérêts, et qui n'est plus dans une logique d'utilisation. Le souci pour ça, c'est que la relation d'objet, d'utilisation est vraiment au fondement de l'économie marchande, en gros, du capitalisme, et même au-delà, d'un monde où la sphère économique est non seulement indépendante du reste de la vie sociale, mais surplombe et détermine le reste de la vie sociale. Donc il y a vraiment il n'y a pas de petits aménagements à la marge. Il y a vraiment une restructuration des quelques piliers fondamentaux de la modernité à envisager.
Est-ce que vous souhaitez réagir, Philippe Curval?
Oui, par rapport au problème de la décroissance, il est évident qu'il y a dans l'esprit public et individuellement une idée de pouvoir réduire sa croissance qui se développe. Malheureusement, les grands groupes de pression empêchent cette chose de se réaliser. Et surtout, il y a une chose qui est profondément sous-jacente à l'évolution de nos démocraties et de la planète en général, c'est quand même le développement extravagant et assez passionnant d'ailleurs de l'électronique et de l'utilisation de tous les smartphones, tablettes, les ordinateurs que nous utilisons tous. Or, au fur et à mesure que cette expansion arrive, même si les gens individuellement ont envie de faire une décroissance personnelle, ils continuent, d'un certain point de vue, à augmenter cette consommation énergétique considérable à travers l'utilisation des smartphones, des ordinateurs et de toute la panoplie électronique dont nous disposons aujourd'hui, aussi bien visuelle qu'auditive. Et donc je crois qu'il y a une espèce de dichotomie terrible entre le fait que un certain nombre de gens dans les démocraties que nous connaissons ont véritablement une prise de conscience du besoin de décroissance, et on entend individuellement des gens qui disent telle ou telle chose, bon, je m'abstiens de faire couler de l'eau plus de 10 minutes, je m'abstiens d'appuyer sur un bouton électrique pour m'éclairer le soir. Ce sont des détails infinitésimaux qui, évidemment, sur le plan d'une population européenne de 500 millions d'habitants, peut avoir un certain résultat. Mais comme par ailleurs, il y a une balance sur le plan de la consommation énergétique, sur le plan numérique et informatique, je crois que là, il y a quelque chose qui pose un problème fondamental, parce que les gens ne sont pas du tout persuadés, quand ils utilisent leur smartphone, qu'ils utilisent de l'énergie.
Alors, si on poursuit un peu sur cette question-là, justement, quelle manière, quelle voie peut-on envisager à partir de la situation présente pour justement, enfin, quelle logique démocratique ou non d'ailleurs, hein, que ce soit du côté de la dictature écologique éventuellement ou du côté de l'utopie, au contraire de l'utopie réelle, quelles sont les voies qui peuvent être envisagées à partir de la situation présente qui feraient sens du point de vue de cette question des ressources. C'est-à-dire que si, je ne sais pas si ma question est suffisamment tournée, mais qu'est-ce qui veut s'en emparer ? Parce que, soyez pas timide. Écoutons Alessandro Pignocchi.
Mais vous vous doutez vers où je vais en venir.
Mais allez-y, allez-y.
Mais et donc, ouais, si disons, peut-être les auteurs de science-fiction que vous êtes auront quelque chose à dire là-dessus, mais j'ai quand même l'impression que vers ce vers quoi on se dirige ressemble effectivement de façon de plus en plus tragique ou marrante, si on goûte à l'humour noir, au récit d'anticipation avec des petites communautés de riches avec des cerfs et quelques perroquets et des hommes en armes et des drones tueurs autour et des armées de pauvres qui ne connaîtront comme seule biodiversité que les tiques et les punaises de lit. Et c'est quand même vers ce destin-là. C'est pas planifié, évidemment, sans doute pas consciemment, mais dans les faits, là, les actions des classes dirigeantes, encore une fois, dans un sens extrêmement large, nous orientent quand même vers ça. Et donc, effectivement, la question, pour reformuler ta question, ce serait que faire si on n'est pas complètement satisfait par ce projet de société et si on aimerait emmener le monde dans une autre direction. Et donc, comme ça vient d'être dit, l'idée d'une responsabilisation citoyenne, de bien trier ses déchets, d'investir dans les énergies vertes, etc., c'est vraiment d'une naïveté extrême. Il faut prendre acte, si donc on n'est pas satisfait par ce projet de société, de choses. D'une part, que les intérêts des classes dirigeantes sont entièrement antagonistes à ceux du reste du monde, qu'eux ont pris acte depuis longtemps du fait qu'une mondialisation généreuse partagée entre tous est complètement impossible pour des raisons des raisons basiques et que donc il ne s'oriente, en tout cas au moins inconsciemment, il ne s'oriente plus du tout vers ça. Donc la première chose, c'est se débarrasser de ces classes, enfin en tout cas cesser de donc c'est une première étape essentielle, cesser d'obéir, destituer ces classes dirigeantes. Et deuxièmement, mais ça va ensemble, défaire la relation d'utilisation à ce qu'on appelle encore les êtres de la nature par abus de langage, mais en fait se défaire du concept même de nature, de l'idée de nature, d'une nature mise à distance et d'une nature ressource ou sanctuaire pour instaurer des pour déplacer l'attention vers les liens, vers une relation de sujet à sujet avec plante, environnement et territoire, en gros. Simplement, et c'est pour ça que ça va avec le premier point, c'est la relation d'utilisation est fondamentale et un fondement de l'Occident moderne. Donc, pareil, ça nécessite un... donc, il me semble que c'est assez difficile d'envisager un aménagement de l'intérieur. Quoi. La remise en question est tellement fondamentale que j'imagine mal des petites luttes internes au système qui se focaliseraient sur des points, qui essaieraient d'infléchir un petit peu. Surtout, les rapports de force sont souvent si disproportionnés que... Et par ailleurs, le pouvoir maintenant gère tellement bien les luttes des incarnés. Enfin, ils ont tellement... intégrer les contre-pouvoirs diffus dans la société. Les classes dominées sont tellement explosées, monter les unes contre les autres, la figure du migrant qui fonctionne à plein. Enfin, je vois pas trop de lutte qui aurait une vraie efficacité de l'intérieur. Par contre, il s'agit de reprendre donc des territoires, de subtiliser des territoires de plus en plus grands à l'emprise destructrice de l'État et de ses alliés, en gros, quoi. Et donc
ce qu'on appelle les ZAD.
De défendre, d'ouvrir des ZAD. Donc vous avez de la chance, vous en avez une belle pas loin. Donc ceux qui justement n'ont pas ont envie de faire quelque chose, arrêtez donc de trier vos déchets et d'éteindre le robinet quand vous vous lavez les dents et employez plutôt votre énergie à défendre la ZAD et à l'étendre dans les mois qui viennent.
Bravo.
Est-ce que vous avez une proposition, par ailleurs, plus science-fiction éventuellement, mais comme vous voulez, l'un ou l'autre? Puisque la ZAD, ce n'est pas de la science-fiction.
Non. Bon, récemment, je viens d'écrire une utopie, mais il est évident que l'utopie, actuellement, se projette pour un auteur de science-fiction dans un avenir fort lointain, parce qu'on ne voit pas du tout pourquoi, à l'heure actuelle, on peut imaginer la fondation d'une utopie, quelle qu'elle soit. Et il y a une ressource qui existe, mais qui évidemment demande un déploiement énergétique, c'est celui des robots. J'ai écrit récemment un roman qui s'appelle Le Tar Blues, dans lequel justement je propose deux solutions. C'est-à-dire que, de toute façon, il faut un moment dans la science-fiction, si on veut reconstruire un monde de façon à essayer d'établir quelque chose qui peut ou ne pas arriver ou qui est tout à fait néfaste pour l'humanité, il faut qu'il y ait un moment de décadence absolue, que dans l'occurrence, dans le tabou, ils appellent les années de chien, c'est-à-dire qu'il y a eu une dépression généralisée de toute la démocratie qui s'est dissoute et qu'après s'est reconstruit quelque chose. Et donc, à partir de ce moment-là, dans ce roman, j'ai imaginé qu'il y avait une déperdition considérable du rôle des parents dans l'éducation des enfants, alors que autour de ça, il y a vraiment quelque chose de bien établi pour enseigner l'humanité. Mais je pense qu'il y a quand même une déficience parentale qui existe assez fondamentalement du fait que généralement les gens travaillent et donc ils sont moins préoccupés par leurs enfants qu'ils n'étaient auparavant. Et donc il y a des robots qui sont des robots éducateurs et qui remplacent les enfants. Et par ailleurs, il y a les robots qui, eux, servent à remplacer les individus dans le travail ordinaire. Donc on en arrive à un problème qui est utopique, dans lequel il y a des tessaris, c'est-à-dire des gens qui travaillent 4 heures, 4 jours par semaine. Et le problème se pose, c'est qu'il y a justement des zadistes de l'avenir qui exigent que l'homme ne travaille plus. Et par contre, il y a des ultra-conservateurs qui, au contraire, veulent que l'humanité revienne au travail Et ça, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental dans cette vision de l'avenir, c'est la déperdition du travail au profit d'un loisir et d'un bonheur de plus en plus facilement accessible, tout au moins dans l'immédiateté des sentiments. Je ne dis pas que le bonheur est pour ce jour, mais que certaines personnes ont l'impression de le ressentir à cause du progrès technologique dont ils bénéficient et qui leur amène un loisir bien supérieur à ce qu'ils ont pu connaître autre jour. Il est bien connu que pour le XXe siècle, il y a eu un grand référendum qui a été fait à travers toute l'Europe pour savoir quelle a été la plus grande invention du XXe siècle. C'est la machine à laver. Parce que la machine à laver a complètement libéré la femme. Moi, j'ai connu l'époque où il y avait des lessiveuses et des extensions épouvantables. Et donc, on peut dire que le progrès technologique a amené des atouts considérables. Le problème, c'est qu'il n'a jamais été contrôlé. Tout le progrès là, et aussi bien la science peut vraiment amener des solutions très intéressantes à l'avenir de l'humanité, aussi bien le progrès technologique doit être réglementé, régularisé, contredit. Et je pense que c'est là qu'est le problème, c'est parce que dans la plupart des hommes politiques, en général, l'acceptation, même chez les conservateurs, du progrès technologique est quelque chose de fondamental et qu'il n'est pas limité dans le temps. Et que c'est l'obstacle principal à la réflexion de l'humanité par rapport à son avenir.
André Sechbar.
Moi, si je dois voter pour le progrès technologique, parce que si on a dit ouais, changement de consommation, j'ai jamais rencontré un exemple pour une vraie changement par un appel de consommer autrement. Tous les vrais succès pour écologiques sont venus avec des inventions technologiques. Et pour ça, je pense que ça ne va pas marcher d'appeler à réduire la consommation et tout ça. Mais par des nouvelles inventions qui vont changer la situation.
On pourrait aussi parler des ressources spatiales, mais ça, bon, je préfère me tourner vers le public à nouveau pour voir s'il y a des questions, des interrogations. Oui, il y a une question ici. Et il y a déjà quelqu'un qui a le micro, donc la personne juste après. Allez-y.
Ah, okay. Alors, tout à l'heure, j'avais une question. Je vous ai pas beaucoup entendu parler de deux ressources qui sont très importantes et qui vont générer des conflits à venir. Alors, tout d'abord, c'est l'eau potable, et aussi les cerveaux, mine de rien, parce que la concentration de capitaux dans certaines entreprises va bien sûr générer des transfert de cerveau, enfin plutôt une émigration massive des personnes surdiplômées vers certaines régions. Et puis aussi, vous parlez d'une étude récente qui m'a fait vraiment flipper, et ça rejoint le point de vue que j'ai, la distinction de l'alterculture qui est complètement du bullshit pour moi. C'est-à-dire que l'humanité et les mammifères domestiqués par l'humanité représenteraient entre 80 et 95% de la biomasse. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce chiffre? Voilà, ça fait beaucoup de questions, hein, excusez-moi, mais voilà.
Il me semble que la biomasse, c'est quand même surtout des insectes. Hein. Mais bon, ça...
Oui, non.
Donc, sur la question des ressources, le rapport à l'eau et le jus de cerveau, éventuellement.
L'eau... Ce n'est pas une ressource limitée dans le même sens que le pétrole. Le pétrole, si on l'utilise, c'est disparu. L'eau va revenir. Toute l'eau qui existe depuis des milliards d'années. Ce qui est limité, c'est le débit qu'on a. Et c'est quelque chose qu'on peut, dans des limites, influencer par... investissement par des moyens technologiques. Et en plus, on parle beaucoup des guerres autour de l'eau, mais il n'existe aucun exemple pour une guerre qui était vraiment autour de l'eau. Au contraire, il existe des exemples que même les pays qui ont le même fleuve ou choses comme ça, qui étaient en état de guerre et quand même ont réussi à partager l'eau qu'il faut pour vivre. Alors, l'eau, c'est pas la même chose que les ressources qui ont vraiment qu'on peut vraiment épuiser. Le pétrole, par exemple, les terres rares et choses comme ça.
En tout cas, la question se pose sans doute pas dans les mêmes termes, mais non, personne ne veut. On passe à une autre question. Il y a une question ici.
Bonjour. Alors moi, une question très simple. Pour vous, qu'est-ce qui serait le plus efficace pour résoudre la question écologique entre une dictature écologique, une démocratie directe? Voilà.
Alors, dictature ou démocratie directe? Est-ce que quelqu'un veut réagir? Bon, vous n'êtes pas obligé de prendre parti. Hein. Je pense que ça veut dire qu'ils sont pour une troisième voie, quelle qu'elle soit. On va passer à une autre question. Si vous...
bah non, mais il y a dictature, évidemment. Non, mais il y a d'autres critères qui rentrent en jeu. Mais l'idée de... Enfin, je ne suis pas complètement au clair là-dessus, mais l'idée d'une vision du monde qui petit à petit se construit sur les relations de sujet à sujet avec plantes, animaux, territoires, ça va forcément avec la notion de commun, de mise en commun, de gestion commune. Enfin, et du coup, je ne sais pas si c'est ça, la démocratie directe, sans doute pas, mais en tout cas, c'est imbriqué avec des systèmes, c'est compatible avec certaines institutions et pas avec d'autres, quoi. Et évidemment pas avec une dictature écologique, au contraire. L'idée d'une dictature écologique renforcerait le statut d'objet attribué donc aux ressources, renforcerait ce statut d'objet contre lequel il faut aller aux plantes, animaux et ressources et aux territoires, etc. Et en augmenterait la valeur et la mainmise d'un petit groupe dessus, il me semble. C'est beaucoup plus vers une notion de gestion commune.
Philippe Curval.
Oui, parce que d'une manière générale, on peut dire que l'écologie punitive qui serait issue d'une dictature écologique est toujours quelque chose de répulsif. Il est évident. Et par rapport à la démocratie directe, bon, il est évident, j'en suis partisan à 100%. Le problème, c'est qu'il faudrait vraiment que l'humanité fasse un progrès, qu'il y ait un changement chez l'homme. Je crois qu'actuellement, on est à un moment de l'humanité où il faudra que l'homme se change s'il veut perdurer, parce que c'est à cause de son absurdité, de sa brutalité, de sa violence, de sa bestialité fondamentale que, malgré tout, des civilisations ont pu se réaliser, mais que fondamentalement, on voit bien que dès que les choses se déstabilisent, la part animale de l'homme revient et qu'il faudrait vraiment qu'il puisse s'en évader. Et je crois que pour ça, il y a beaucoup d'efforts à faire. D'abord, on parlait du cerveau et je crois qu'il y a surtout une connaissance du cerveau parce qu'actuellement, finalement, Alexis Carrel a écrit, c'était d'ailleurs un penseur d'extrême droite, il y a environ 70 ans, L'homme, c'est inconnu, dans lequel on se demandait comment fonctionnait le cerveau humain. On a fait quelques progrès depuis, mais on est encore très très loin de savoir exactement comment il fonctionne. Et depuis qu'on a encore découvert que la sphère abdominale contient aussi des neurones et qu'elle forme un second cerveau, et qu'il faudrait peut-être un équilibre entre les deux de pouvoir arriver à une perfection de l'être humain. Je crois qu'il y a un travail de l'humain vers l'humain qui est absolument indispensable si on veut obtenir un jour une possibilité de démocratie directe.
Je vais peut-être...
Andreas Schubert.
Je veux justement ajouter que le bilan écologique des dictatures qu'on a eues est terrible. Alors, je ne pense pas que c'est le chemin.
Bon. Nous avons le temps pour une dernière question qui va être là.
Oui, alors c'est plus par rapport pour Alessandro. J'ai beaucoup raisonné avec ce que tu as pu dire pendant cette conférence. Il y a quelque chose qui m'a un petit peu dérangé, c'est la notion de démocratie qui n'a pas été pour moi trop définie, à part justement par Alessandro qui a parlé des intérêts que peuvent avoir les multinationales, etc. Moi qui suis plutôt sur une critique anarchiste, je dirais que la démocratie c'est une oligarchie déguisée en fait, tout simplement. Et j'ai eu l'impression qu'Alessandro, tu parlais en fait, t'as parlé de capitalisme vert, et le mot idéologie n'a pas vraiment apparu dans tout votre discours. Et j'ai pas trop compris pourquoi on n'a pas essayé de critiquer ce capitalisme vert, et j'ai l'impression en fait tu l'as un petit peu fait. En montrant en fait par exemple le capitalisme vert, c'est le pyromane pardon qui devient pompier, et s'il y a tous ces problèmes écologiques, c'est justement l'avancée du capitalisme qui nous met dans ces impasses au niveau des ressources. Est-ce que tout à l'heure tu faisais pas en fait un appel à se démobiliser en tant qu'individu de toutes ces hyperstructures qui nous gouvernent? Et pour en revenir au concept de nature, c'est plus une domination de la nature, mais simplement un retour à la nature, un retour naturel à la nature, je ne sais pas.
C'est pas un retour, faut se méfier avec les idées de retour, c'est clair. C'est un déplacement de l'attention vers une relation d'utilisation, une attribution de fonction. Encore une fois, fût-elle des fonctions de récréation et de contemplation, etc., ça reste une attribution de fonction. C'est déplacer l'attention de ça vers une relation de sujet à sujet, d'interaction réciproque. Et alors, je pensais qu'on avait encore une demi-heure, mais si on... Je voulais juste... c'est pas tout à fait dans une réponse à ta question, mais dire que c'est pas... Il n'y a rien d'utopique là-dedans. Enfin, c'est la relation de sujet à sujet avec... plantes, animaux, etc., ça existe partout dans le monde. C'est l'Occident moderne qui est une exception d'avoir introduit une relation d'utilisation. En Amazonie, donc, que je connais, ça va de soi. Il ne s'agit absolument pas de dire qu'il faut prendre les Indiens d'Amazonie en exemple ou en modèle ou qu'il faut revenir. Ce n'est pas du tout ça. C'est éventuellement une source d'inspiration. Mais en tout cas, voilà, dans les cosmologies amazoniennes, les plantes et les animaux sont crédités d'une intériorité similaire à celle des humains. Et les différences sont que corporelles avec les... Et donc c'est des intuitions qu'on a tous, hein, dès qu'on parle à son chat ou à sa plante verte, ou même qu'on insulte son ordinateur portable, etc. On fait comme si il avait une intériorité, et simplement notre monde ne s'est pas structuré sur ces intuitions-là. Et en Amazonie, les sociétés sont construites autour de ce rapport quasiment d'égal à égal. Avec plantes, animaux et environnement. Et du coup, c'est pas tant changer l'homme. Les potentialités des rapports de sujet à sujet avec ça, elles sont déjà là. C'est changer les structures qui font que les individus vont plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre, quoi.
Alors, merci à tous. Faut-il dissocier démocratie et capitalisme pour préserver nos ressources? C'est une question que vous pourrez poser plus directement à nos intervenants lors de leur séance de dédicace qui sont, je pense, dès maintenant en librairie. Je vous remercie pour votre attention. Je les remercie pour leurs propos. Et je vous souhaite une bonne suite de festival.